Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rouen et 11 communes environnantes confinées ce matin, les écoles fermées à cause d'un très gros incendie dans une usine chimique de la ville, noyée sous une épaisse fumée qui ne serait pas toxique selon la préfecture. Le site est classé Seveso, il avait déjà connu un incendie en 2013. À la une également cette nouvelle séquence de débats sur les retraites inaugurée par Emmanuel Macron à Rodez aujourd'hui. Question d'un agriculteur en avant-première dans ce journal et question sur les ministres et leurs fonctionnaires aux multiples régimes spéciaux. L'Italie et l'aide au suicide assisté, pas forcément illégale, a tranché la Cour constitutionnelle. Nous serons à Rome. On connaît sa plume acerbe et lyrique, peut-être moins sa vie. Une ancienne ministre se raconte dans un livre. Nous l'attendons dans ce studio.
Il s'agit de Christiane Taubira. Elle publie en effet Nuit d'épines aux éditions Plomb. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale et j'attends toutes vos questions. Vous pouvez dialoguer avec elle. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal aussi, une plongée dans le quotidien d'un service d'urgence avant une nouvelle manifestation ce jeudi. Et un voyage au bout du monde, c'est le trompettiste Ibrahim Maalouf qui nous prend par la main.
France Inter.
Une usine en flammes, des détonations et une colonne de fumée dense et noire dans le ciel de Rouen. Ce matin, c'est une usine de la rive droite de la ville qui est en feu. Lubrizol fabrique des additifs pour lubrifiants. Usine classée Seveso, ce qui veut dire que les risques en cas d'accident sont pris très au sérieux. D'où ces annonces de la préfecture, écoles, collèges et lycées fermés toute la journée dans toute l'agglomération. 12 communes confinées, les habitants invités à rester chez eux, même si les fumées, dit le préfet, ne présente pas de toxicité aiguë selon les premières analyses. Bonjour Antoine Sabag.
Bonjour Florence.
Vous êtes sur place à quelques centaines de mètres de l'usine. Ces fumées se propagent depuis 3 heures du matin environ.
Oui, et les habitants de Rouen et de son agglomération se réveillent dans l'inquiétude, voire dans l'angoisse, car l'incendie est toujours en cours. Et ce qui est impressionnant ici, c'est cette colonne de fumée très noire, une colonne large, très haute, qui noircit le ciel et qui se dirige vers le centre-ville de Rouen, tout proche. Ce sont des produits chimiques qui brûlent dans cette usine Seveso, seuil haut, qui fabrique des additifs pour huile. Il n'y a pas de victimes, mais le préfet annonce des mesures exceptionnelles de précaution. Fermeture des écoles, collèges et lycées, périmètre de confinement de 500 mètres et appel à éviter les déplacements à Rouen et dans 11 communes alentour. D'ailleurs, plusieurs routes et autoroutes sont coupées ce matin.
Antoine, ce qui est inquiétant, c'est que les pompiers, pour l'instant, ne semblent pas arriver à maîtriser cet incendie.
Oui, et pourtant, 130 pompiers sont mobilisés depuis 3 heures ce matin. Alors qu'il est, nous n'entendons plus d'explosion, comme ça a été le cas cette nuit, mais les pompiers n'arrivent toujours pas à éteindre l'incendie. C'est pourquoi des renforts sont en route depuis le département voisin de l'Eure, mais aussi depuis d'autres départements.
Antoine Sabag, merci de France Bleu Normandie. À l'instant, le maire de Rouen, interrogé sur votre antenne, est revenu sur le passé de cette usine Lubrizol. Ça n'est pas le premier accident qu'elle connaît, dit Yvon Robert.
C'est un accident particulièrement grave. C'est une entreprise extrêmement attentive à la sécurité, extrêmement attentive à son environnement. Elle a connu un souci en 2013 avec une émanation du mercaptan, qui est un gaz non pas toxique, mais qui sent extrêmement fort, puisque les émanations de gaz avait été senti jusqu'en Grande-Bretagne, en tout cas, et dans la région parisienne.
Yvon Robert, maire de Rouen, et à l'instant, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, affirme qu'il n'y a pas d'éléments sur un risque lié à ces fumées dans l'agglomération rouennaise. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions.
Il est 8h05, Florence, le président dans un exercice bien rodé à Rodez.
Emmanuel Macron devant 500 personnes à la préfecture de l'Aveyron en fin de journée. Format grand débat national, 3 heures à l'agenda pour parler retraite et lancer une concertation citoyenne. Anthony Quintard, agriculteur de Saint-Félix de Lunel, 29 ans, lui posera cette question.
Monsieur le Président, est-ce que la réforme des retraites va me garantir que les agriculteurs aujourd'hui retraités puissent toucher une retraite décente en dessus du seuil de pauvreté et que moi, demain, je puisse toucher une retraite aussi décente?
Alors aujourd'hui, on s'est battu pour que les agriculteurs aient une retraite à 75% du SMIC, ce qui est quand même dérisoire, il faut bien le reconnaître. La réforme s'engage à ce que tout le monde touche au moins 85% du SMIC dans la retraite. Pour nous, ce serait un vrai progrès.
Voilà, c'est pour cet agriculteur qui participera au débat au micro de Benjamin Illy. La réforme des retraites, vous le savez, doit mettre fin aux régimes spéciaux avec un système universel par points. Une gageure pour certains ministres qui doivent à la fois accompagner le changement et en même temps défendre leurs fonctionnaires au régime très divers, Yaël Gauz.
Dans moins d'une semaine, tous les syndicats de policiers seront dans la rue pour une marche nationale de la colère. Lutte contre les suicides, les agressions, pour de meilleures conditions de travail et la défense de leur retraite. Le ministre de tutelle se dit solidaire.
Ce que je veux leur dire, c'est que moi je défendrai jusqu'au bout la spécificité du statut des policiers et le statut des gendarmes pour qu'on préserve leur droit à un départ à la retraite plus tôt.
Christophe Castaner, le 17 septembre sur BFM. Chez les enseignants, même vigilance. Jean-Michel Blanquer a parfaitement identifié la menace. Il considère qu'il faudra revaloriser les salaires pour limiter la baisse des pensions.
Si on applique de manière aveugle ce principe, il y aura des effets pervers pour une série de métiers, à commencer par les personnels de l'éducation nationale.
Le ministre de l'Éducation le 28 août sur Inter. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Elisabeth Borne sous pression des agents RATP, Nicole Belloubet interpellée par les avocats. À chaque niche de régime spécial, son chien qui mord, ironise un ministre. Sauf que l'heure de vérité approche. Si le haut commissaire aux retraites a été nommé au gouvernement, c'est aussi pour faire converger ses camarades, les responsabiliser comme directeur de leurs ressources humaines. Jean-Paul Delevoye verra tous les ministres d'ici au 15 octobre. Son credo, préserver l'unité de la réforme sans nier la diversité, mais sans céder non plus aux surenchères.
Yaël Gauz à l'Assemblée, ce sont les députés marcheurs qui sont pour l'extension de la PMA et en même temps pas d'accord sur tout. 16 députés de la majorité ont voté cette nuit un amendement pour ne pas inclure les femmes seules dans la loi. L'amendement n'est pas passé. En Italie, le débat éthique du moment est le suivant. Peut-on aider quelqu'un à mourir parce qu'il ne supporte plus sa vie de malade? Eh bien, la très catholique Italie vient de dire oui. Le suicide assisté ne doit pas être systématiquement condamné. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle, saisie du cas d'un responsable politique qui avait conduit un homme tétraplégique et aveugle en Suisse, où l'euthanasie est autorisée. C'est une victoire historique pour ceux qui réclament le droit de mourir en Italie. La Cour, Bruce de Galzin, demande maintenant au Parlement de légiférer.
Le suicide assisté n'est plus illégal en Italie sous certaines conditions. C'est une victoire pour les défenseurs de cette cause, comme l'avocate Filomena Gallo, qui a défendu des cas emblématiques depuis des années.
Aujourd'hui, leur témoignage, leur sacrifice donne une liberté à tous les Italiens qui, s'ils veulent décider de mettre fin à leurs propres souffrances avec une injection létale, s'ils ont une maladie incurable, douloureuse, et s'ils sont capables de prendre leurs propres décisions, eh bien ces personnes ne seront plus seules.
Les conditions sont donc strictes, une souffrance intolérable, une maladie irréversible pour un patient qui doit être sous assistance et traitements vitaux et capable de choisir de mourir de manière libre et éclairée. Cette décision de la Cour constitutionnelle doit maintenant franchir un autre pas, celui de la loi. Les parlementaires sont mis devant leurs responsabilités car la Cour leur demande de légiférer. Déjà, les opposants se font entendre. Matteo Salvini a dénoncé un suicide d'État. Les catholiques sont appelés à se mobiliser pour une bataille devant le Parlement. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
En Israël, à la fin, c'est Bibi qui gagne. Benjamin Netanyahou sauve son poste de Premier ministre. C'est lui qui a désigné le président pour former le prochain gouvernement. Aux législatives, il a remporté un siège de moins que son rival de centre-droit, Benny Gantz. Mais c'est lui qui est jugé le plus à même de constituer une équipe. Dans ces conditions, Benny Gantz n'y participera pas. Pas question, dit-il, de rentrer dans un gouvernement dirigé par un homme qui risque d'être inculpé pour corruption.
Quelle est l'ampleur de la répression à l'œuvre en Égypte en ce moment?
Vendredi dernier, quelques centaines d'Égyptiens sont descendus dans les rues pour demander le départ du président Sissi, bravant l'interdiction de manifester en vigueur depuis 2013. En réponse, les autorités n'ont pas fait dans la dentelle. On parle de plus d'un millier de personnes arrêtées. Correspondance au Caire, signé Martin Roux.
Ils travaillent jour et nuit pour recenser les personnes disparues ou arrêtées. Mohamed Lotfi dirige l'une des rares ONG de défense des droits humains encore autorisées en Égypte. Selon lui, l'ampleur de la répression en cours est inédite depuis 2016 et une précédente vague de manifestations.
Le nombre d'arrestations est similaire, mais à l'époque, la plupart des personnes arrêtées étaient engagées politiquement. Dans les arrestations en cours depuis vendredi, la majorité des manifestants n'est pas politisée. Ce sont des Égyptiens ordinaires, de la classe moyenne inférieure, travailleurs et de la classe ouvrière. Ils représentent tout simplement la majorité des Égyptiens.
Parmi ces manifestants arrêtés, 600 ont déjà comparu devant la justice, accusés de propagation de fausses nouvelles, participation à des manifestations illégales, mais aussi d'appartenance à des groupes terroristes, une charge pouvant être punie par la peine de mort. Alors que circule un nouvel appel à manifester demain, des figures politiques ont aussi été arrêtées. Les autorités se montrent déterminées à dissuader les Égyptiens de descendre à nouveau dans la rue pour une journée qui s'annonce décisive pour la suite du mouvement. Dans le centre de la capitale, les forces de l'ordre restent déployées aux abords de la place Tahrir. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Donald Trump menacé de destitution aux États-Unis, même si la procédure lancée par les démocrates a peu de chances d'aboutir. Elle place le président en mauvaise posture à un peu plus d'un an des élections. Alors Trump tente de relativiser une destitution. Pour ça, c'est une blague, lance-t-il. Le contenu de sa conversation avec le président ukrainien a été publié hier, dans laquelle il a bien demandé à son homologue d'enquêter sur le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, et sur les affaires ukrainiennes de son fils. C'est la dernière tendance chez les narcotrafiquants d'Amérique latine, le sous-marin pour transporter de la drogue. Les gardes-côtes américains en ont saisi 5 tonnes de cocaïne dans le Pacifique, dans un submersible artisanal de 12 mètres de long. Il se dirigeait sans doute vers le Mexique.
8h12, 6 mois de grève aux urgences en France.
6 mois à demander des embauches, des moyens et des lits supplémentaires. Les 750 millions annoncés par Agnès Buzyn n'ont pas calmé la colère des urgentistes. Ils appellent à manifester de nouveau aujourd'hui. Les paramédicaux de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, près de Paris, en seront. Dans leur service, les passages augmentent de 8% chaque année. Voilà à quoi ressemble leur quotidien. C'est un reportage de Géraldine Allot.
C'est un après-midi ordinaire aux urgences de l'hôpital de La Fontaine. Un homme arrive, il a mal à l'estomac. Un autre tousse beaucoup, suspicion de tuberculose. Une dame de 75 ans a les pieds tellement infectés que l'odeur est pestilentielle. Et puis d'un coup...
Dites pas de méchanceté.
Après 4 heures.
Une jeune femme, visiblement très alcoolisée, s'en prend à Areski, un infirmier.
Non, mais franchement, c'est un hôpital de merde, en fait.
Là, c'est pas sympa, ça, pour nous, madame.
Quand vous entendez une patiente comme ça, qu'est-ce que ça vous...
Ben, ça fait mal, en fait. Tout ce que la société ne veut pas voir finisse par dériver lentement, mais sûrement aux urgences. Il a mal, vient aux urgences. Il a besoin d'assistance sociale et vient aux urgences. C'est une espèce de siphon qui draine tout ce que la société ne veut pas voir.
Et parfois, il faut avoir les nerfs bien solides, comme lorsque ce jeune homme qui s'est tordu un doigt débarque dans le poste de soins.
Vous pouvez pas rentrer dans le poste de soins.
Je suis en train de courir derrière lui, c'est pas normal. Et là, j'ai fait la radio, j'ai eu à attendre encore 45 minutes.
On fait comme on peut.
Oria a été embauchée comme médiatrice pour apaiser les tensions avec les patients.
Les passages aux urgences explosent, les médecins de ville désertent le département. Une fois qu'ils ont leur clientèle, ils n'en prennent pas d'autres. Et bien ces patients-là, où est-ce qu'ils vont? Ils viennent aux urgences.
Les soignants demandent des effectifs supplémentaires. Pour eux, c'est le seul moyen de faire face à l'afflux de patients.
Voilà un reportage signé Géraldine Allot, retrouvé en longueur ce dimanche dans l'émission Interception à 9h10 sur France Inter. Les nouvelles sanctions de la Ligue de foot contre les supporters et leurs sorties homophobes. Marseille jouera sans son public lors d'un prochain match à l'extérieur et une partie de la tribune de Nice sera fermée pour une rencontre à domicile. On ajoutera côté sport cette défaite du PSG au Parc des Princes hier soir, battu 2-0 par Reims en 7e journée de Ligue 1.
Ces albums, Florence, sont attendus comme des voyages.
Ibrahim Malou, cette fois, nous emmène en Amérique latine avec une longue escale à Cuba. Son 13e opus s'appelle Sens, dans lequel le trompettiste virtuose a réalisé un vieux fantasme musical, Mathieu Culeron.
Après avoir revisité les Balkans cet été, le trompettiste a voulu rendre hommage à l'Amérique du Sud. Sur ce disque, il est accompagné notamment par la nouvelle scène cubaine.
À chaque fois que je rencontre des musiciens, des artistes cubains, c'est un coup de foudre artistique. Il me semblait en tout cas évident qu'un jour ou l'autre, il fallait que je concrétise ça. Alfredo Rodriguez, ça me paraissait évident. Roberto Fonseca, ça fait quelques temps qu'on fait 2-3 collaborations, puis on avait envie de concrétiser un peu plus. Harold Lopez Nussa, ça fait des années qu'on se disait qu'il fallait qu'on collabore, puis là c'était l'occasion. Enfin, les trois musiciens que je viens de citer font partie vraiment de la fine fleur de ce qu'est le jazz cubain aujourd'hui, la musique cubaine. C'est un peu les enfants de Chucho Valdés, d'une certaine manière.
Dans sa quête de sens, Ibrahim Malouf a voulu insérer un extrait du discours de Barack Obama prononcé à Cuba en 2016.
Un saludo. De paz.
un poète cubain pour tendre la main à son ennemi. Je trouvais ça très très beau, c'est un geste qui devrait exister plus souvent.
Sens, un disque moderne et pop dans sa forme, un jazz décomplexé, plus ouvert sur le monde.
Ibrahim Malouf en tournée dans toute la France jusqu'au 8 décembre. Et je vous rappelle l'information principale de cette matinée, cet incendie extrêmement violent dans une usine Seveso de Nantes. 12 communes de Rouen, 12 communes confinées, les habitants invités à rester chez eux, les écoles, les collèges et les lycées fermés toute la journée. Deux sirènes d'alerte ont été déclenchées au Petit Quevilly et à Rouen ce matin pour inciter les habitants à rester informés de cette situation qui évolue et dont on vous reparlera évidemment ce matin.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre, le temps est humide.
Et oui, sur les trois quarts du pays, dès ce matin, les pluies arrosent les régions du nord, de la Vendée, au nord, au Massif central, au nord des Alpes. Des pluies accompagnées d'un bon vent de sud-ouest qui radoucit l'atmosphère en ce début de matinée. Il fait déjà 16 à Brest, Boulogne-sur-Mer et Paris, 17 à Nantes et Clermont-Ferrand. En revanche, vous avez pu voir le soleil se lever en douceur du Pays Basque à Nice, avec également un petit vent de nord-ouest et déjà 20 à Perpignan, 18 à Toulon et 22 à Calvi.
Et peu d'évolution cet après-midi.
Avec également un temps toujours très contrasté entre le nord du pays sous la pluie et le sud sous le soleil et la chaleur. Il pleuvra un petit peu moins sur les régions centrales et l'Île-de-France. Sur le nord-est, et le soleil brillera au sud d'une ligne qui relierait le bassin d'Arcachon au nord des Alpes. En revanche, le vent ne mollira pas, soufflant toujours à 50-60 km/h. Idem en Méditerranée. Cet après-midi, on va gagner 1 à 3 degrés un peu partout. 19 à Lorient, Strasbourg et Rouen, 21 à Paris et La Rochelle, comptez 24 à Biarritz, 26 à Bastia et un petit plongeon sera possible à Grande Motte avec 28. Et on frôlera les 30 dans la région nimoise. Et à Nice, vous aurez 25. Alors qu'hier, Ferrarissime, il a fait 29,1 degrés. Dans cette ville, il faut remonter à plus de 30 ans pour retrouver un 29 degrés si tardif. C'était le 27 septembre 1987.